Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce débat des grandes voix historiques d'Europe 1. Gérard Carrérou est absent ce matin, on le salue, mais ses trois comparses sont là. Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Ce matin, on respire.
Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur. Mes chers concitoyens, je le dis, je le ressens. Nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale.
Fin du port du masque en extérieur, levée du couvre-feu à partir de demain, tous les indicateurs au vert. Mais attention à ne pas se réjouir trop vite, l'épidémie peut revenir, préviennent les épidémiologistes. Des indicateurs au vert, c'est bon pour le moral, bon aussi pour Emmanuel Macron. On a beaucoup vu le chef de l'État sur le terrain cette semaine.
Je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement le travail pour la nation et nos compatriotes.
Emmanuel Macron est-il en campagne déguisé? Comme le disait cette semaine sur Europe 1 Jérôme Fourquet, l'élection reine en France reste la présidentielle. Et puis, première tournée pour Joe Biden en Europe cette semaine et un tête-à-tête très attendu avec Vladimir Poutine.
Je ne pense pas qu'il cherche une guerre froide avec les États-Unis. Ce n'est clairement dans l'intérêt de personne.
Biden et la Russie, Biden et la Chine, Biden et les Européens. Nous verrons quel bilan on peut tirer de cette première tournée sur le vieux continent du président américain. Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement. Le débat des grandes voix, c'est parti. Faut bien le dire, c'est un bout de tissu qui sauve des vies depuis plus d'un an, mais qui, en même temps, nous la gâche. Le masque n'est plus obligatoire en extérieur depuis jeudi. Les grandes voix, est-ce que... vous considérez comme le Premier ministre que nous vivons enfin un moment heureux?
Oui. c'est la fin de l'assignation à résidence. C'est quand même important. Et le retour à une vie presque normale, c'est ce que vient de dire le Premier ministre.
Absolument.
Il faut le croire.
On le vit, vous le vivez, vous le ressentez comme ça aussi, Catherine Ney, Michel Cotta?
Moi, je le vis parce qu'il faisait tellement chaud ces jours-ci que j'ai tout fait. Alors, c'est vrai que c'était une libération. Mais je vois que le Premier ministre qui vient d'annoncer la fin du port du masque vient de rester 8 jours à l'arrêt parce que sa femme était positive. Et que, vous voyez, donc, il nous montre aussi qu'un drame peut survenir, que l'épidémie peut repartir. Mais moi, je crois que le masque qu'on abandonne avec plaisir parce qu'il fait chaud va devenir et va demeurer un geste social.
On le voit d'ailleurs.
On le voit d'ailleurs dans la rue. Les gens, vous avez le droit de l'enlever, mais il y en a qui le gardent. Mmh. Donc, parce qu'aujourd'hui, le fait de dire vous pouvez l'enlever, la liberté, c'est de le garder. Vous voyez, c'est ça, les Français peuvent le garder. C'est ça qui est intéressant. Et moi, on le regrette aussi parce que c'est drôlement pratique un masque. Vous voyez, quand on sort le matin, qu'on a une petite mine, qu'on a l'œil poché, ça préserve. Et ça préserve de l'autre aussi. Parce qu'avec le virus, on s'aperçoit que l'autre est un danger, que peut-être lui, il est contaminant. Donc le masque, avec le masque, on n'embrasse plus. Et maintenant qu'on enlève le masque, on n'a plus envie d'embrasser forcément. Et on est content.
Oui, c'est la fin de la bise.
C'est la fin de la bise obligatoire, ce geste social, les artistes qui s'embrassent, les politiques. Vous voyez
Tout le monde s'embrasse maintenant, les hommes.
Oui, donc peut-être que ça, mais en tous les cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'admettons que le Covid, il n'y ait plus d'épée, eh bien, chaque hiver, quand on dira une épidémie de grippe arrive, eh bien, on mettra un masque sans avoir les rigots. Et on se lavera les mains, parce que s'il y a eu moins
de grippe et de
gastro, c'est qu'on se lave plus les mains. Donc voilà, ça nous aura éduqués pour
un peu plus d'hygiène. Mais l'Asie nous aura donc montré l'usage, parce que depuis des années, avant même le Covid, tous les Chinois et les Japonais abordent l'hiver en étant masqués. Et masqués très étroitement d'ailleurs, peut-être plus étroitement que nous le sommes nous-mêmes, parce qu'ils fixent ça très... Alors moi, je pense que c'est des jours heureux, mais peut-être que je suis pessimiste, mais j'attends quand même le déroulement de l'été.
Oui, non, mais je suis d'accord avec Michel.
Il faut surtout se dire que l'année dernière, à la même époque, tout le monde était très content. On ne pouvait pas voyager, pas d'avion, etc. Mais enfin, tout le monde était très content. Et que quand même, le chiffre, on a vu le chiffre décliner aussi, mais on a vu le chiffre remonter. Oui. Et les variants, alors on va parler à la salle.
On va y revenir sur les variants, mais juste Charles Villeneuve, on a vu aussi entendu le président de la République hier soir, aux côtés d'Angela Merkel, mettre en garde contre un retour de la pandémie et appeler à la vigilance.
Ça flambe en Allemagne.
Parce qu'il reste d'ailleurs de tout ce que viennent de dire mes deux consoeurs, et néanmoins amis,
Merci.
C'est qu'il reste une incertitude majeure, quand même. Savoir si les variants ne vont pas gâcher la fête, et notamment le variant Delta qui nous vient du Gange.
Le variant indien.
Qui perturbe la vie des Anglais, qui sont pourtant à près de 60% vaccinés, et des Russes, et puis qui fait poser des questions aux Portugais, notamment autour de la capitale, Lisbonne, puisqu'il y a des clusters qui apparaissent avec ce fameux variant. Alors, est-ce que l'épidémie recule durablement? C'est ce que tu disais, d'ailleurs, Michel. Ou n'est-ce qu'un entracte d'été? Alors, on a quand même une assurance, c'est que la France s'y est mise sur la vaccination et elle s'impose pas mal. Il y a beaucoup de doses.
Mais vous le disiez justement, Charles, la vaccination, elle est très haute au Royaume-Uni, plus de 60%. Et pourtant, le variant indien est présent à 90% et il est beaucoup plus contagieux et les cas repartent et repartent.
Pardon, techniquement, il y a une différence avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, c'est que les doses ont été beaucoup plus séparées. Les doses ont été beaucoup plus séparées que les nôtres, puisqu'ils ont été séparés de 2-3 mois. Et finalement, donc,
alors que c'est une moyenne de 3 semaines,
voilà,
4 semaines. 4 semaines.
Là, il y a une grande partie des gens qui ne sont vaccinés qu'une fois.
Et vous avez raison, Michel, sachant qu'en effet, les spécialistes disent qu'a priori, les vaccins sont valides contre le variant indien, mais uniquement après 2 doses.
Voilà. Mais enfin, moi, je pense que cette crainte qu'on peut avoir pose le problème de la vaccination. Est-ce qu'elle doit être obligatoire ou pas? Bon, maintenant, en Chine, où on ne connaît pas d'ailleurs les qualités du vaccin, elle est quasi obligatoire sans le dire, puisque vous ne pouvez plus aller dans des magasins, à l'hôtel, au restaurant si vous n'êtes pas vacciné. Ceux qui sont vaccinés ont un cadeau, un savon, voyez. Et ceux qui vaccinent, une boîte d'œufs. Vous voyez, donc on a traqué.
Oui.
Bon. En tous les cas, il y a un milliard de Chinois ont été vaccinés. Mais comme ils sont déjà plus d'un milliard, ça veut dire qu'il y a une dose seulement qui est donnée. Voyez.
Vaccination obligatoire, vous disiez, Catherine. Oui. On a entendu cette semaine Olivier Véran, le ministre de la Santé, dire qu'il faudrait rendre obligatoire la vaccination, en tous les cas pour les soignants dans les EHPAD, Charles Villeneuve.
Moi, je pense que c'est un impératif de santé publique. Parce que c'est plus important que les pudeurs de gazelle qu'on voit apparaître, notamment chez les soignants, dans les EHPAD en plus. C'est ma plus grande surprise.
Oui.
C'est
oui,
que
oui.
Les soignants qui sont les plus récalcitrants sont dans les EHPAD. Et c'est là où, justement, il y a la population la plus fragile. C'est invraisemblable.
Mais de toute façon, elle sera. Il y a des vaccinations obligatoires en France. C'est pas.
On a des. La variole, le tétanos, la polio.
La polio, etc.
11 désormais.
Voilà, 11 vaccins. Alors, je sais que ça avait fait du bruit. Je sais que ça avait fait du bruit quand on était passé à 11. Enfin, les gens sont passés à 11.
Eh bien, passons
moi,
à 12.
Pas, voilà, moi, je n'arrive pas à comprendre comment il n'y a pas une obligation de vaccination, puisqu'il faut atteindre donc le maximum de gens pour arriver à enrayer l'économie, et enrayer la maladie, et pas seulement en France d'ailleurs, dans le monde, ce qui va nous poser d'autres problèmes, mais en tout cas, je ne comprends pas comment on ne rend pas obligatoire une vaccination de ce genre.
Alors, donc dans les EHPAD, on demande aux visiteurs qui viennent voir leur famille s'ils sont vaccinés. C'est obligatoire, si vous voulez rendre visite à un patient ou à un parent qui est dans l'EHPAD, il faut être vacciné et on ne l'exige pas de ceux qui les soignent, c'est incompréhensible.
Alors il y a une autre manière aussi d'imposer la vaccination, c'est le pass sanitaire. Si on rend obligatoire le pass sanitaire pour aller dans un certain nombre de lieux, ne serait-ce que les restaurants, les cinémas, ça imposera la vaccination.
Alors vaccination obligatoire, stratégie vaccinale d'Emmanuel Macron qui a été fortement décriée fut un temps et aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi son pari politique? Eh bien je vous propose de continuer à en débattre juste après une première pause. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guillaume.
En compagnie de Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve pour ce débat des grandes voix consacré notamment à la stratégie vaccinale d'Emmanuel Macron. Demain, ce sera la levée du couvre-feu. Cette semaine, la fin de l'interdiction du port du masque, on en parlait en extérieur. On sait aussi que l'objectif fixé, c'était 30 millions de vaccinés chez les Français au 15 juin, objectif atteint. Finalement, les grandes voix, il a réussi son pari, Emmanuel Macron, contre l'avis des scientifiques, Michel Cotta.
Moi, je crois qu'on... On pourra dire, oui, qu'il l'a gagné. Alors, je vois bien sûr qu'il y a une étude qui a été rendue publique récemment, enfin hier, et qui montre que s'il avait peut-être fait un confinement plus tôt, alors il y aurait eu peut-être moins de morts. Bon. Mais je trouve que c'est un texte un peu truqué, parce que premièrement, ça ne tient pas compte du vaccin. Mm. Bien sûr qu'il était dans une course contre la montre avec le vaccin, mais que ça entrait, ça rentrait dans sa réflexion. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'à l'époque, les mêmes d'ailleurs qui disaient qu'il ne fallait pas confiner, disaient « oui, mais attention, il y a une acceptabilité, les gens peuvent avoir son mauvais moral, jamais il y a eu autant de consommation de psychotropes, jamais autant de gens... » Alors, je ne sais pas, moi, ce que cette attitude va apporter vraiment. Ce que je sais, c'est que pour l'ensemble du pays, c'est une réussite.
Réussite oui. Partager
oui.
Ce constat.
Oui, d'ailleurs, ce qui est incroyable, enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Allemagne, qui est le pays que l'on dit toujours, c'est le summum de l'organisation, de l'efficacité, mais ça s'est très très mal passé.
Sur la deuxième vague.
Sur la deuxième vague, parce que d'abord, ça dépendait des Länders, où là, on s'est aperçu que les systèmes de santé ne sont pas informatisés, que c'est l'archaïsme total. Les gens ont eu beaucoup de mal à se faire vacciner. Mais Mme Merkel, néanmoins, n'est pas accusée parce que justement en raison de l'organisation par Länder et aussi parce que ses ministres ont été paraît-il spécialement inefficaces en tous les cas en parole. Bon, donc
elle a fait ce qu'elle pouvait.
Elle a fait ce qu'elle pouvait.
Le jour où
elle a demandé pardon aussi. C'était pour autre chose. C'est parce qu'elle voulait. Elle voulait trop réduire les vacances de Pâques, ou je ne sais pas, et elle a demandé pardon.
En tout cas, Emmanuel Macron, comparé à Angela Merkel, a plutôt réussi sa stratégie. Voilà. Quand bien même, au départ, il écoutait les scientifiques, ensuite il ne les écoutait plus.
C'est vrai que globalement, l'économie française, ça c'est important, s'en est plutôt, jusqu'à présent, bien sortie. Ça c'est vrai. L'épidémie n'a pas flambé autant qu'on le craignait, c'est vrai aussi. Maintenant, la machine à vaccination a fini par se mettre en route, avec une certaine efficacité, mais elle a été extrêmement lente. Il ne faut pas oublier quand même que nous n'avons pas de vaccin, toujours pas. Des cinq grands pays membres inamovibles du Conseil de sécurité de l'ONU, nous sommes les seuls à ne pas avoir notre vaccin. Il faut quand même ne pas l'oublier que les agences régionales de santé ont été d'une inefficacité incroyable et que c'est le pouvoir central. Et on se plaint de la centralisation excessive, c'est le pouvoir central qui a quand même réalimenté la machine, qui aujourd'hui, on est quand même à moitié. Alors tout à l'heure, tu disais par rapport aux Anglais, les Anglais sont à 60% et nous sommes à 30%, mais parce qu'il y a un sournois qui s'est glissé dans la pièce, c'est le variant du Gange, le variant indien. Et nous ne sommes pas à l'abri du sournois. Non plus.
Sachant qu'on a déjà 3-4%.
Entre 2-4% officiellement.
Ne nous couvrons pas trop vite, si vous voulez, d'une pluie de félicitations qui nous laisse en extase.
Oui, non. Personne n'est en extase. Au contraire, tout le monde voit bien les dangers. Mais l'exemple anglais, en effet, fait peur. Quand on dit variant, ça fait peur parce que... qui nous dit, après tout, que tous les variants seront résistants, que les vaccins seront résistants aux variants, on ne sait rien.
C'est pas mal, jusqu'à présent, on s'en sort
bien. Jusqu'à présent,
c'est
pas mal, mais là, apparemment, les gens ont davantage peur de la...
Du variant.
Enfin, en gros, il y a une volonté, c'est vacciner, et si la vaccination s'arrête parce que les gens ne veulent pas, le 30% des Français ne veulent pas se faire vacciner, il faut la rendre obligatoire, sinon on ne s'en sortira pas.
Alors, parce que l'Académie de médecine le dit quand même, une population vaccinée empêcherait l'émergence d'un vaccin.
Oui, mais à combien, d'un variant, pardon. À combien ? Parce qu'il faut être vacciné à 90% aujourd'hui en immunité collective. Oui, voilà. Voyez l'exemple du Royaume-Uni. Alors, Emmanuel Macron a rappelé cette vigilance importante hier soir, on le disait avec Angela Merkel, et puis on l'a vu beaucoup sur le terrain cette semaine encore, à effectuer son tour de France pour prendre le pouls du pays. L'opposition l'accuse de faire une campagne déguisée. Écoutez ce qu'il a répondu.
Comme ça ne vous a pas échappé, J'ai un mandat qui dure jusqu'en mai 2022. Donc, je suis au travail. On gère la crise sanitaire avec beaucoup de précautions. Je le dis, on a pris des décisions hier qui vont permettre de passer une nouvelle étape. Voilà, donc on continue à tous ensemble sortir de cette crise et se redresser.
Emmanuel Macron rétorque qu'il est au travail jusqu'en 2022. Charles Villeneuve, est-ce qu'il abuse plus de sa position que ses prédécesseurs ?
Non, je crois. Enfin, tous ses prédécesseurs ont fait la même chose, ça, là-dessus. Bon. Mais ce qui m'étonne de lui, c'est la manière dont tu nous présentes ça. Ça me fait de la peine parce que je trouve qu'il nous prend pour des jobastres.
Des jobastres ?
Ben oui, parce qu'il est bien évident qu'il rôde, qu'il est en train de rôder. si vous voulez, ses thèmes de campagne pour les présidentielles de 2022. C'est bien évident. Et puis en même temps, il va même sur les Hauts-de-France à quelques jours du premier tour pour tordre le bras. On sait très bien que c'est quand même lui qui a envoyé une phalange de ministres pour essayer de tordre le bras de Xavier Bertrand, qui veut, au-delà de la gouvernance des Hauts-de-France, se présenter à la campagne présidentielle. Et il espère que Bertrand, pour le deuxième tour, aura besoin d'un République en marche. Donc, il fait tout ça pour ça aussi, simplement. C'est pour ça que ça me fait de la peine qu'ils nous prennent pour des jobastres.
Alors, est-ce qu'il nous prend pour des jobastres, Michel Cotta?
Non, moi, je crois
pour,
qu'il fait carrément... Il se garde bien de parler des... spécificité des régions, hein, de leur rôle,
enfin,
c'est-à-dire des transports et
non, mais Michel,
des,
alors, non,
les régionales, on en parle.
Attendez,
pas,
les régionales, non, les régionales et alors les, pas, les sommes, départementales, je
mais
vous
mais où la stratégie a été fixée, analysée, qui
sûr.
A envoyé les cinq ministres pour affaiblir.
Oui, non, mais attends, si tu me laisses finir.
Non, mais je.
Laisse-moi parler. Je pense qu'effectivement, c'est un premier tour, c'est un début de campagne électorale. Il faut qu'il fasse très attention, il a fait assez attention à ne pas donc, aborder les problèmes départementaux, etc., parce que sinon, on l'aurait rappelé
à l'ordre.
Ça l'aurait rappelé à l'ordre. Donc, il parle. C'est un début de campagne, point final. Et c'est un début de campagne. Alors, le cas de Xavier Bertrand, je trouve, est intéressant, parce que, quand même, l'ennemi numéro un de Macron, c'est le Rassemblement National. C'est pas Xavier Bertrand. S'il y avait un candidat de droite, et il y en aura sans doute un, que ce soit Xavier Bertrand ou un autre.
Xavier Bertrand
pourtant,
l'inquiète.
Et pourtant, voilà.
Ah oui,
et pourtant, Xavier Bertrand l'inquiète.
C'est ça la réalité.
Ça, je trouve que, bah, oui, je trouve que c'est plutôt flatteur
pour
Xavier Bertrand.
Ah. Oui. Non, mais il n'est pas en campagne, mais comme par extraordinaire, il va dans les Hauts-de-France. Vous voyez comme par extraordinaire. Ouais. Alors, pour parler de quoi?
Il va bien dans
alors, c'est vrai.
Ouais, ah,
mais oui, mais
temps,
là, oui, mais dans les Hauts-de-France, il y a cinq ministres. Il y a Xavier Bertrand. S'il avait été en Aquitaine, ça n'aurait pas fait le.
Oui,
bon,
c'est vrai.
Mais là, alors, mais de quoi parle-t-il? Il va à Poix en Picardie parce que c'est. Il va pleurer sur devant l'école normale où sa grand-mère a dirigé pendant 23 ans. C'est une sorte d'itinéraire mémoriel familial. Il est allé à Château-Thierry parce que c'est le 400e anniversaire de Jean de La Fontaine. Il a fait venir
trois semaines avant.
Il a fait venir. Voilà, c'est ça. Il a fait venir Lucchini, qu'il tutoie. Moi, j'aime pas cette espèce de familiarité entre ces. Enfin, c'était bien. Et puis, il est aussi allé à Villers-Cotterêts, dont le maire est Rassemblement National, pour annoncer l'ouverture du château qui sera l'école de
la cité internationale
de la langue française. Donc, c'est évidemment périphérique. C'est périphérique au problème de la région, mais enfin, il est présent et il dit aux habitants des Hauts-de-France, je suis là.
Alors, on continue d'en parler, les grandes voix, sur ce déplacement, cette campagne sans faire campagne, une campagne déguisée, oui ou non, juste après une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes.
Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta, on m'accompagne jusqu'à 11h pour ce débat consacré actuellement à la campagne déguisée ou non d'Emmanuel Macron. Il était, vous le disiez, Catherine Ney, à Villers-Cotterêts et à Château-Thierry, la ville natale de Jean de La Fontaine, cette semaine. Il est venu faire, il veut faire de la lecture une grande cause nationale. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce duo, Emmanuel Macron, Fabrice Lucchini, côte à côte?
Fabrice Lucchini est un acteur extraordinaire, parce que entre réciter une fable de La Fontaine, comme on l'a tous fait, même avec un professeur de français qui nous enchantait, et écouter Fabrice Lucchini, qui ne récite pas une fable, il l'a dit avec des silences, des mimiques, et tout d'un coup, on comprend des choses, peut-être, de la morale de l'histoire qu'on ne comprend pas forcément et que les enfants ne saisissent pas en le lisant, vous voyez.
Bon. Comme quand il dit « Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami » en récitant une fable et en estimant que ça s'appliquait aussi à des conseillers du président de la République.
Oui. Bon, très bien, non mais c'est ça.
C'est quand même pas très sympa pour ses collaborateurs.
Oui,
ça voudrait dire qu'il n'a confiance en personne. Moi, c'est ce que je retiens, puisque c'est la morale, puisqu'on doit retenir la morale de l'histoire, en tout cas de la fable.
Oui, mais c'était un moment où on prenait du plaisir et vous savez très bien que M. Lucchini, qui est cet immense acteur, est aussi un politique parce qu'il tient à être ami avec tout le monde, tous les politiques, qu'il reçoit, qu'il tutoie et les présidents le tutoient en retour. Et là, moi c'est cette espèce de... de relations comme ça...
Familières.
Qui me gênent pas, mais je...
Mais si, ça te gêne un peu, mais...
Ça me gêne un peu.
C'est oublier quand même que son objectif numéro un, et on le voit maintenant, c'est quand même les jeunes. Puisqu'on voit très bien que lorsqu'il fait...
Vous ne parlez pas de Fabrice Lucchini, là, en l'occurrence.
Non, président. Fabrice Lucchini s'adresse, c'est universel, si vous voulez. Jeune. Non, Emmanuel Macron s'adresse aux jeunes, là, très précisément. Et même de temps en temps, même si nous, ça nous surprend qu'il s'adresse à un... Il fasse quelque chose avec un groupe de rap, eh bien, il paraît que ça marche. Et du coup, je trouve que c'est sans doute une nouvelle façon de faire campagne. Et il a d'autant plus besoin des jeunes qu'une partie des jeunes sont dans les sondages proches de lui, mais que les jeunes ne votent pas.
Oui.
Donc, une grande partie de son enjeu l'année prochaine, c'est effectivement qu'il n'y ait pas que les jeunes mobilisés, qu'il n'y ait pas que la mobilisation du Rassemblement National jeune, mais qu'il y ait une mobilisation des jeunes.
Et d'ailleurs, les jeunes le traitent comme un jeune, parce qu'il y a un petit garçon qui lui a dit « Alors, la claque, ça va ?»
Justement, je voulais vous en parler. Écoutez, là, on a cette séquence. Une petite fille qui interpelle Emmanuel Macron après sa gifle reçue.
Ah bah oui, ça va, c'est pas grave. Hein. C'est pas bien. Hein.
Ça va la claque que tu t'es prise. Ah bah oui, ça va, c'est pas agréable, mais c'est pas bien de taper dans la cour. Cet échange vous a interpellé,
Je trouve que
Catherine.
C'est la spontanéité des enfants. Et je veux dire, pour que cette petite fille en parle, c'est que chez elle, on a dû en parler.
Oui, moi, je suis pas sûre que ce soit de la spontanéité, justement. D'avoir des parents...
Télécommandé.
C'est assez télécommandé.
Mais moi, je trouve ça, tout ce que je viens d'entendre de Catherine ou de Michel, c'est vrai, c'est très bien dit, je connais leur science, de leur culture, etc.
Attention, qu'est-ce qui va nous balancer un coup derrière la tête.
Non, pas du tout. C'est une très bonne idée de la part du président de la République, mais tout ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global. Est-ce qu'on va tenir bon sur le refus de l'écriture inclusive? Est-ce qu'on va tenir bon sur la promotion de la francophonie dans les instances internationales? Est-ce qu'on va tenir bon sur l'enseignement de l'histoire de France? En réalité, est-ce que le président de la République est prêt à mener une bataille culturelle de ce qui fait la France? C'est ça aussi la question de fond. Parce qu'on est incertain là-dessus. Parce que quand on le lit, si vous voulez, dans Zadig, c'est formidable. Mais quand on l'écoute sur CBS chez les Américains, alors là, on a des doutes. Notamment parce qu'il faut défaire une partie de l'histoire de France.
Et ben oui.
C'est invraisemblable. Mais quoi ?
Mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que la France ? C'est un vivre ensemble. Bon, qu'on veuille ou pas, il y a des vivre ensemble avec des tas d'autres gens.
Mais il y a une histoire de France. Il y a des faits à respecter.
Oui, il y a des faits à respecter, mais ça, rien ne dit qu'ils ne respectent pas.
Demandent à être français connaissent l'histoire de France?
Eh bien, il vaut mieux qu'ils la connaissent sûrement, mais l'histoire de France, elle se modifie sans arrêt.
Mais il faudrait que le président de la République les incite à bien la connaître.
Il n'y a pas d'histoire de France officielle, voyons. Ça m'a rappelé le débat avec Pierre Nora.
Non, mais ça, c'est toi qui le dis.
Il n'y a pas d'histoire de France officielle.
Pierre Nora n'a pas la science infuse.
Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas... Heureusement, le gouvernement ne nous impose pas...
Il y a d'autres historiens que Pierre Nora aussi.
Oui, non, mais ni personne, ni à gauche, ni à droite, n'a à nous imposer une histoire officielle de la France.
Non, mais ce n'est pas une raison non plus pour vouloir déboulonner les statuts et effacer toute une partie de la France.
On est d'accord, mais lorsque Joe Biden, puisqu'on va parler de lui, fait un jour férié pour fêter la fin de l'esclavage, vous ne dites rien, vous dites que c'est normal, c'est bien.
Parce qu'il y a eu des esclaves
en Amérique et nous, en France. Il y a aussi des colonisés en France.
Mais ce n'est pas de l'esclavage.
De toute façon, est supérieur à la notion d'esclavage qui existe toujours sur le plan de la mentalité aux États-Unis.
Sur la décolonisation, la France n'a pas... autant l'Angleterre a été formidable sur la décolonisation et elle a su garder absolument son Royaume-Uni et son Commonwealth. Autant la France a quand même raté sa décolonisation sur l'Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie d'ailleurs, mais en Algérie sûrement. Bon, ben, on peut se dire ces choses-là, on peut se les dire... sans immédiatement se prendre au collet en disant on détruit l'image de la France colonisatrice formidable.
Mais il est aussi intéressant et constructif de se prendre au collet.
Alors, vous vous êtes dit ces choses-là, ensemble, Charles Villeneuve, Michel Cotta, Catherine Ney. Le débat est un petit peu monté, nous étions sur les moments heureux en début de partie.
Ah, ils sont heureux. Hein,
oui. Vous êtes quand même toujours sur des moments heureux. On va voir ce que vous pensez de Joe Biden et de sa tournée européenne, notamment dans ses rapports avec les Européens, la Russie, mais aussi Vladimir Poutine. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Sébastien Guyot.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve, nous abordons à présent un nouveau thème de débat, celui consacré à Joe Biden, qui était cette semaine en Europe. Première tournée pour le président américain, après le sommet du G7 en Angleterre. Il a été à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN, puis on l'a vu à Genève avec Vladimir Poutine. Avant d'entrer dans le détail, les grandes voix, j'aimerais avoir votre sentiment global sur cette séquence Biden. Le fait qu'il choisisse notamment le vieux continent comme première tournée de son mandat.
C'est important parce que, Michel effectivement, Cotta. Il ajoute d'abord, c'est America is back. Hein, c'est quand même, il y a un clin d'œil au président qui l'a précédé. Mmh. Il y a une volonté d'affirmer des valeurs communes sur la démocratie avec les pays riches, enfin, le G7 et puis plus tard les autres démocraties. Donc, il y a vraiment de sa part, c'est quelque chose de mesuré et de tout à fait. Volontaire, et il a commencé comme ça parce qu'il a besoin finalement d'être plus largement que le patron de l'Amérique, le patron de l'Europe. Alors moi, ça me gêne beaucoup, et si c'est ça qu'il veut faire, on verra comment ça se passe. Il reste que c'est un voyage réussi pour lui. Un, il n'a pas fait de gaffe, oui. Alors que tout le monde dit il fait des gaffes. Pas que la seule gaffe qu'il ait faite, c'est qu'il ait gardé ses lunettes noires devant la reine d'Angleterre. Bon, mais enfin, si c'est des gaffes comme ça, ça va. Ensuite, il a quand même affronté l'OTAN et affronté surtout Poutine, qu'il connaît très très bien, on va y revenir. Mais au bout du compte, il en est sorti avec une première tournée réussie.
Première tournée réussie, avant de rentrer dans les détails, selon vous, Charles Villeneuve.
Non, mais les détails sont très importants. Voilà. Oui, les détails sont très importants.
On va y revenir. Alors,
ce qui est très intéressant,
panorama.
Quand on vient en Europe, mais qui sont les alliés de l'Amérique, ben, c'est d'abord les Européens. Et donc, il est venu au sommet de l'État, de l'OTAN, pardon, pour rappeler qui étaient les alliés et pour réengager l'Amérique. C'est l'article, le fameux article 5 de la Charte Atlantique qui exige une solidarité réciproque, dont Michel, que Michel craint si jamais il y avait des conflits, je ne sais pas, sino-américains ou Dieu sait quoi. Bon. Mais il l'a, et ça a vraiment ravi les Européens. Ben avec, évidemment, un inconvénient, c'est que Trump voulait sortir de l'OTAN, disait que c'était du pipeau, ce qui avait fait dire à Emmanuel Macron que c'était de la mort cérébrale. Mais ça avait obligé au moins une chose, c'est que les Européens s'étaient dit qu'il fallait que chaque pays utilise maintenant 2% de son budget pour se réarmer, les militaires. Donc, je crois que l'inconvénient, c'est que Biden, en rappelant qu'il était là, et ça a rassuré les pays de l'Est, oui. Ça arrête toute cette frange de l'Europe, eh bien, ça démobilise et que ça éloigne plus l'Europe d'une défense européenne.
Alors, voilà. Les détails, Charles Villeneuve, il y a eu notamment une trêve sur Boeing Airbus, en rappelant que c'était...
Oui.
Mais ce
non,
qui
mais
est
là,
important, c'est qu'il veut emmener les Européens sur un front anti-chinois.
Oui, non, mais il avait deux objectifs centraux. Premièrement, rameuter les alliés. C'est-à-dire que les alliés avaient été débranchés par Trump. Par exemple, dans une grande discussion sur les forces nucléaires intermédiaires, parce qu'il y a des tas de missiles qui peuvent se balader nucléaires dans le ciel, il faudrait quand même qu'on en fasse un décompte et que surtout on négocie justement cet arrêt. Ça, c'était le premier, rameuter les alliés. Bon, alors, America is back, mais d'abord, America is first. Oui. Ça bouge pas,
voilà.
Ça.
Bon.
Et c'est l'un des problèmes. Un certain nombre de diplomates qui connaissent parfaitement avec qui j'ai dialogué, dont l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay sur ce plan-là, c'est de savoir si les Américains veulent toujours nous imposer qu'ils ont toujours raison. C'est l'un des problèmes. Bon. Le deuxième problème, bien évidemment, c'est l'objectif que s'est fixé la Chine en 2049-2050, d'être la première puissance non seulement commerciale, mais aussi politique et stratégique. Il ne faut pas oublier qu'au moment où la Russie a mis au garage son porte-avions, son seul porte-avions, qui ne sort plus à l'heure actuelle, les Chinois viennent d'en fabriquer un quatrième et viennent de le mettre à l'eau.
Alors, quand il veut que les Européens viennent avec l'Amérique en soutien pour être un front anti-chinois, vous en pensez quoi?
Attendez, parce que quand il va, il serre la main, évidemment, ce n'est pas la poignée de main qui est importante avec Poutine. C'est que Poutine et lui ont un intérêt commun. Qui est pas, l'un le dissimule, c'est Poutine, et l'autre le clame, c'est la Chine. Parce que les Russes ont tout autant de soucis à se faire par rapport au poids commercial, à la puissance de la Chine. Il ne faut pas oublier qu'ils ont, avec la Chine, une frontière de plus de 4000 km. Et qu'il y a la Sibérie,
qui est un terrain vide,
et qui est très riche aussi en matière de stratégique de sous-sol. Et n'oublions pas que la Chine a 1,5 milliard d'habitants, alors que la Russie n'a que 144 millions d'habitants.
Michel Cotta. D'ailleurs, c'est vrai que la Chine, dont personne n'a parlé, sauf d'ailleurs le président de la République française, pour dire que l'OTAN, c'était l'Union de l'Atlantique Nord, et par conséquent, la Chine n'était pas concernée par ça. Bon, il est vrai que l'essentiel du voyage de Joe Biden, c'est quand même de venir donc, prendre les démocraties autour de lui, essayer de contenir Poutine, parce que quand même, pour quelqu'un qui a dit que Poutine était un tueur, ils ont quand même passé ensemble, et ils ont des heures ensemble, et surtout, ils ont quand même réalisé des petites avancées.
On va y revenir.
Et au fond, tout ça, pourquoi? Pour désolidariser, évidemment, pour tenter de désolidariser la Russie de la Chine. Alors, donc tout ça était quand même à la fois très européen et à la fois très anti-chinois.
Je vous propose de poursuivre ce débat. Je vous donne la parole juste après une pause, Catherine Ney. Et on parlera dans le détail notamment de ce sommet qu'il y a eu entre Poutine et Biden à Genève sur les bords du lac Léman. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
En compagnie de Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve, jusqu'à 11h, dernière ligne droite pour ce débat des grandes voix consacrées à la tournée européenne de Joe Biden et ce nouvel ordre mondial. Alors, on l'a vu donc sur les bords du lac Léman avec Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont serrés la main, vous l'avez dit, ce qui en temps de Covid n'était pas totalement anodin. Et puis, voici ce qu'a déclaré Joe Biden à l'issue de leur conférence.
Après deux heures de face-à-face, on s'est regardé l'air de dire « Ok, c'est quoi la suite ?» Parce que dans 3 à 6 mois, il faudra regarder en arrière et se demander ce sur quoi on s'est mis d'accord pour travailler. Est-ce que ça a marché ?
Finalement, ils se sont mis d'accord sur quoi, Catherine Ney ? Pas grand-chose, hormis le retour des ambassadeurs.
Quand même, ils se sont parlé. Et Biden dit toujours que toute la politique étrangère repose sur les relations personnelles. Et moi, je pense que Poutine, en ce moment, était content d'avoir ce face-à-face avec le président de la première puissance économique du monde. Bon. Donc, ils ont parlé pendant... Ils n'ont pas fait de conférence de presse commune. Donc, il n'y a aucune complicité. Ils se sont dit les choses. Et avec sa manière courtoise, quand même, Biden lui a quand même dit qu'il était un tueur.
Ah, ça, c'était avant.
Mais il le sait. Oui. Il l'avait entre lui. Donc, et puis, il sait très bien qu'il a face à lui quoi, Poutine. C'est une puissance économique qui ne pèse pas plus lourd que l'Espagne, alors que les Espagnols ont 40 millions d'habitants et l'Union soviétique, c'est 140 millions. Il y a beaucoup 144. De pauvres. Beaucoup de pauvres. Bon, la force aujourd'hui de Poutine, c'est sa capacité de nuisance, se dire sur les cyberattaques et tout ça. Et donc, Biden lui a dit, écoutez, arrêtez de détruire et lui a mis 17 sites à ne pas attaquer. Il lui a donné la liste. Il lui a dit, voilà, vous écoutez. Voilà. Et puis,
il lui a fixé des lignes rouges.
Et puis, il lui a dit aussi, si Navalny meurt en prison, il y aura des conséquences dévastatrices. Oui. Donc, ils se sont quittés. Je ne sais pas ce que sera l'avenir, mais en tous les cas, choses ont été dites.
Michel Cotta.
À ajouter, c'est quand même l'Europe là-dedans. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit maintenant que l'Europe est quand même beaucoup, beaucoup moins unie, proche les uns des autres qu'on le croit. Tous les pays de l'Est, par exemple, sont à côté de l'Allemagne, forment un bloc vraiment important. Il y a les pays latins qui restent assez fidèles à ce qu'ils sont, et puis les pays nordiques qui ont d'autres problèmes. Mais du coup, on parle de sanctions systématiques avec la Russie.
Avec Moscou.
Est-ce que ça a encore un sens, les sanctions ? Est-ce qu'on va encore accuser longtemps Vladimir Poutine de vouloir reconquérir le Donbass ? Bon, il y a quand même, de ce point de vue-là, en Europe maintenant sont complètement différents et qui vraisemblablement changent même, je crois, hein, la nature de ce qu'était l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était avant le Brexit, par exemple. Oui.
Charles Villeneuve. D'ailleurs, pardon, Michel a raison de dire qu'aujourd'hui, les principaux clients de l'Allemagne, c'est l'Est. C'est la Pologne, c'est les pays de l'Est. Et beaucoup moins avec les pays latins, qui ont quand même les difficultés d'être les plus endettés. C'est toujours, comme disaient les pays Club Med, quelque part. Hein. Et la France va se trouver dans un état économique très, très, très...
Alors justement, Charles...
Le fossé va s'être agrandi entre l'Allemagne et la France.
Alors, on parle de l'Europe dans ses rapports à la Russie notamment, mais et la France dans tout ça, Charles Villeneuve?
Mais d'abord, enfin, juste pour moi, le plus important dans cette affaire, si vous voulez, d'ailleurs, l'extrait de Biden que vous avez passé le dit très bien, on ne sait pas comment ça va se passer après. Mais le plus important pour Biden, c'était, comme l'a dit d'ailleurs Catherine, surtout qu'il n'active pas là où il est le plus fort sur les nuisances par rapport à l'objectif central que se sont fixés les Américains, c'est-à-dire que la Chine ne soit pas en 2049-50 la première puissance mondiale. C'est cette suprématie-là qui est en jeu. Alors, l'Europe... Bon, d'abord, premièrement, la poignée de main, le fait qu'il l'a considérée comme une puissance nucléaire à Poutine est très important parce que ce sont des réminiscences par rapport à ce qu'a été la Russie avec l'Union soviétique, qui était une grande puissance. Ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas, ni économiquement, ni militairement. Il ne faut pas l'oublier. Bon. Deuxième chose, l'Europe. N'oubliez pas qu'en 2019, la France, le président Macron, a proposé une modification de l'architecture de la sécurité. Bon, Trump l'a totalement ignoré. Biden ne peut pas l'ignorer. Pour une raison simple, la France est une puissance nucléaire, militaire, a une force de dissuasion, membre inamovible du Conseil de sécurité des 5.
De l'ONU.
Et donc ça pèse, bien sûr. Ça pèse énormément. Et je suis intimement persuadé que Biden va prendre en considération les propositions de Macron sur ce plan-là. N'oubliez pas qu'il y a une deuxième puissance nucléaire en Europe, c'est le Royaume-Uni, mais qui, lui, est sous clé américaine. Même leurs sous-marins nucléaires ne peuvent pas, de toute façon, appuyer sur le bouton sans l'autorisation des États-Unis. Ce qui n'est pas le cas de la France.
Vous avez remarqué que Biden a marqué, évidemment, regretté le Brexit. Hein.
Quand on dit que l'Amérique, au fond, le problème numéro un de Biden, comme tous les Américains, c'est que la Chine ne soit pas avant 2030, la première puissance économique du monde. Parce qu'au fond, le problème, il est là. Et derrière ça, il est évident que le président américain ne peut pas entraîner l'ensemble des Européens. Vous vous rappelez que Mme Merkel est allée 50 fois en Chine pendant qu'elle était au pouvoir. 50 fois, parce qu'il y a des liens très étroits entre l'Allemagne et la Chine. Même chose, des liens économiques étroits entre la Chine et la France, même si on fait semblant que ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'on va être entraîné dans cette espèce de guerre nouvelle qui est la guerre entre les États-Unis et la Chine?
Oui, mais n'oublie pas, Michel, aussi, qu'il y a deux grandes parties du monde qui sont en train de se restructurer tout à fait différemment, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique, où il y a de grands acteurs comme la Chine, la Russie, les États-Unis, mais il y a aussi de petits acteurs qui sont assez perturbants, comme la Turquie et comme l'Iran.
Et ce nouvel ordre mondial, on continuera à en parler, bien entendu, d'autres débats, mes chers grandes voix.
Parlons des jours heureux.
C'est déjà terminé. On avait commencé avec les jours heureux. Sans le masque, en extérieur, profitez bien de cette journée. L'émission est terminée. Dans un instant, la table des bons vivants avec Laurent Mariotte. Bonjour, mon cher Laurent.
Bonjour, Sébastien, et bonjour, les grandes voix.
Bonjour.
Est-ce que vous avez commencé les barbecues?
Pas encore.
Bon, très bien. Nous, on va vous faire un joli casting en douillette magret pour changer de la chipo merguez. On va parler aussi, on va goûter surtout la cuisine sicilienne. Et Mathilde Seignier viendra casser la croûte avec nous. À tout de suite.
À tout de suite.